Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du TFC, Toulouse Football Club. Partie 2, le TFC découvre le football business, de Jean-Baptiste Doumain au tourbillon des années 1980. L'historien Denis Beau interroge sur le long terme les rapports du TFC à sa ville, à ses institutions et à ses milieux économiques, dans son ouvrage 1957, le TFC au sommet du football français. Après l'euphorie de la victoire de 1957, la ville entre en léthargie footballistique. Elle attend un déclic. Celui-ci arrive en 1961 par le biais d'un changement. Jean-Marc Pintis passe la main à Jean-Baptiste Doumain. C'est la première étape de l'entrée dans une ère nouvelle, celle du football business, une ère parsemée d'embûches et de quelques moments de gloire, comme la retentissante victoire devant l'équipe napolitaine du mythique Maradona. Le milliardaire rouge a un objectif précis. Je veux que nous soyons champions. Jean-Baptiste Doumain est un chef d'entreprise qui revendique haut et fort son engagement auprès du Parti communiste. Il a fait fortune dans l'agroalimentaire et réalise une grande partie de son chiffre d'affaires avec les pays de l'Est. Après avoir été élu maire de Noé, puis conseiller général de Haute-Garonne, il décide en 1961 d'investir le milieu sportif. L'homme n'en est pas un paradoxe près. Communiste, il devient président d'un club de football professionnel à but très lucratif. C'est un président omniprésent qui use de sa notoriété médiatique et de sa faconde pour imposer ses choix. Les résultats sont là. Le TFC est cinquième du championnat en 1964, mais cela ne lui suffit pas. Il débauche les meilleurs et enrôle pour un salaire élevé l'entraîneur qui a mené Nîmes au sommet, Abdelkader Firou. Cet ancien joueur du TFC, qui avait refusé d'encadrer l'équipe de Fellaini en 1958, met en place un système de jeu très défensif, tout en priant les buteurs, Pierre Dorsini, Abdelrahman Soukane ou Samuel Edimo, de faire gagner le club. Cependant, les portes du succès sont lentes à s'ouvrir. L'homme pressé du Sud-Ouest veut faire de son équipe une vitrine de la ville de Toulouse. Grâce à ses relations avec le monde soviétique, il multiplie les tournées d'exhibition du TFC à Nurs pendant les périodes de trêve du championnat. Il fait même frémir le Landerneau du football en entretenant la rumeur de l'arrivée du gardien de but du Dynamo de Moscou, Lev Yashin, le meilleur gardien de but du monde à cette époque. Homme de coups médiatiques, souvent inabouti, il parvient néanmoins à se réjouir de la qualification du TFC pour la Coupe d'Europe des villes de foire en 1966. Ancêtre des actuelles Coupes d'Europe. Mais il assiste à l'effondrement du TFC en championnat de France. Le club est ruiné, le milliardaire n'arrive plus à financer les dépenses qu'il a engagées. En avril 1967, alors que Claude Nougaro adresse avec Au Toulouse un véritable hymne d'amour à sa ville natale, celle-ci s'inquiète d'une éventuelle vente du club. Le président recherche un soutien municipal semblable à celui que Gaston Defferre apporte au président de l'Olympique de Marseille, Marcel Leclerc, et demande une subvention pour sauver le club. Mais le maire, Louis Bazerque, membre de la SFIO, adjoint au sport dans la précédente municipalité de Raymond Badiou, n'aime pas beaucoup les façons d'agir de Jean-Baptiste Doumain. Il profite de cette occasion pour montrer sa désapprobation. En sous-main se joue une partie politique, celle d'un affrontement entre la SFIO et le Parti communiste français. Le bouillant président du TFC publie un réquisitoire contre la municipalité, accusé de privilégier des projets urbanistiques d'envergure et de délaisser la politique sportive. Il menace. Si la mairie ne fait rien, il fusionnera le TFC avec le Restart Football Club de Saint-Ouen. La Dépêche du Midi organise dès lors une campagne de presse dénonçant le sabotage du club par l'homme d'affaires. Comment une ville de près de 500 000 habitants pourrait-elle se passer d'une équipe de football professionnelle ? Les deux parties campent sur leur position, malgré le maintien in extremis du TFC en première division. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, la fusion avec le Restart est actée en juin 1967. Les dernières rencontres de championnat du mois de juin au Stadium sont des soirées d'adieu avec le public toulousain. Le beau projet de Jean-Baptiste Doumain a fondu comme neige au soleil. Il n'en reste en tout cas qu'amertume et désillusion. Se désole l'équipe. Pour voir évoluer leur équipe, les Toulousains devront aller au Stade Bauer de Saint-Ouen. Fin de cet épisode rocambolesque. Pendant 3 années, le public toulousain est sevré de football de haut niveau. L'argent manque. Puis un entrepreneur local disposant de confortables réseaux économiques, Lilian Bouzikeli, crée une nouvelle équipe. Il veut un changement visible. Il impose un nouveau nom, l'Union Sportive de Toulouse, UST. Un nouveau maillot aux couleurs sang et or et une place négociée en deuxième division. La modestie est de mise, il faut arriver à se maintenir et regagner une adhésion populaire. Le président joue sur la fibre historique de la grande famille du TFC en faisant appel à des entraîneurs qui étaient d'anciens joueurs comme Pierre Dorsini ou Richard Boucher. L'objectif est de remonter en première division. La prévoyance des débuts laisse la place à une inflation salariale. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous. Alors, Just Fontaine, l'homme qui a permis au Paris Saint-Germain d'accéder à la première division, est appelé à la rescousse pour sauver l'UST en 1977. Mais le parcours de l'équipe est décevant car elle frôle la descente en troisième division. Cette suite de désillusions contribue à la déroute financière de Bouzikeli et de ses successeurs. L'UST disparaît des tablettes de l'histoire toulousaine en 1979. Une parenthèse douloureuse qui a éloigné les Toulousains du stadium. Pour les attirer vers l'arène, les nouveaux dirigeants inaugurent une politique de communication originale. Il faut retrouver les racines, créer un nouveau Toulouse Football Club. Le maillot devient violet pour évoquer la fleur emblématique de la cité. Un entraîneur est choisi, Pierre Cahuzac, un ancien qui revient au pays après avoir amené le Football Club de Bastia aux portes de la victoire en Coupe de l'UEFA. Rigoureux et exigeant, il affirme qu'en 3 ans, le TFC sera en première division. Paris tenu. En 1982, le TFC retrouve enfin le devant de la scène grâce à des buteurs hors pair comme Robert Pintenat. La ville est alors en ébullition. Elle se transforme en une cité high-tech depuis les choix politiques d'y implanter les industries de pointe liées à l'aéronautique et à l'aérospatiale. Le carnet de commandes d'Airbus commence à se remplir. Ses formations prestigieuses rivalisent avec les meilleures grandes écoles. Pour le journal L'Équipe, imaginons une Silicon Valley sur Garonne, c'est la Californie du Sud. Le jeune maire, Dominique Baudis, élu en 1983, libéral et dynamique, souhaite incarner ce renouveau. Il veut moderniser l'agglomération de près de 600 000 habitants et accompagner son essor économique. La construction d'une ligne de métro est décidée et le prix du marché immobilier s'envole. Toulouse a le vent en poupe. L'agglomération attire les talents créatifs, vit la nuit et s'étourdit. Elle connaît une petite movida avec des boîtes de nuit branchées, des groupes de variétés qui revendiquent leur appartenance à Toulouse. Son théâtre du Capitole connaît une notoriété internationale sous la baguette de Michel Plasson. Le Stade toulousain, lui, retrouve le succès et devient champion de France. Le TFC profite de l'emballement général. Son président, Daniel Vicentin, patron dans l'immobilier, apporte de l'argent frais qui découle de la soif de construction de la métropole toulousaine. Fini la gestion d'un club à la petite semaine. Place à des dirigeants qui savent se procurer des fonds, s'allier les hommes politiques locaux et qui managent les clubs comme de véritables entreprises. Daniel Vicentin est dans la mouvance de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille et de Claude Besse aux Girondins de Bordeaux qui incarne, selon l'historien Paul Dieschi, la mégalomanie d'hommes nouveaux qui ne résistent pas à la lumière médiatique. Il obtient un soutien de la mairie qui octroie des subventions substantielles pour le club. C'est un hyper-président qui se livre à une politique de recrutement sans précédent. Tous les moyens sont bons pour obtenir les meilleurs joueurs, qui évolueront aux côtés de jeunes, tels Jean-Philippe Durand, sortant du centre de formation. Le président ouvre son carnet de chèques pour s'offrir des gloires françaises. Christian Lopez, Gérard Soler, Jean-François Domergue, Yannick Stopira, Philippe Bergerot ou étrangères, dont 2 Argentins, l'ancien champion du monde, Alberto Tarantini et Beto Marsico. Par ailleurs, une manne financière nouvelle apparaît pour les clubs. Avec les audiences extraordinaires réalisées lors des retransmissions des matchs sur petit écran, les chaînes de télévision achètent des droits qui se chiffrent en millions de francs. Le TFC compte en profiter et les sponsors aussi. Pourtant, comme le fait remarquer Maurice Safran dans France Football, Toulouse encaisse 1 franc mais en dépense 2. La menace d'une faillite plane sur le club qui négocie en urgence un plan d'échelonnement de sa dette évalué à plus de 25 millions de francs. Les supporters, de plus en plus nombreux, se structurent dans l'association Les Supporters des Violets. Ils se prennent d'affection pour leur TFC en attendant des résultats concrets.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.